Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, une organisation patronale minoritaire rêve de relancer le dialogue social. Le salaire de Carlos Tavares ne plaît pas à tous les actionnaires de Stellantis. Et puis le prix du pétrole est plutôt stable malgré la crainte d'une guerre au Proche-Orient. C'est une petite organisation patronale, l'UDP, qui réunit les artisans et les commerçants. L'UDP qui se rêve aussi en sauveur du paritanisme et du dialogue social avec les syndicats. Après l'échec des discussions la semaine dernière sur notamment l'emploi des seniors, une séance de négociation est organisée. Mais sans le MEDEF et sans la CPME qui refuse cette idée discutée aujourd'hui, le compte épargne-temps universel qui permettrait aux salariés d'épargner des congés tout au long de leur vie au palier.
Premier grief pour l'Union des entreprises de proximité, l'abandon du CETU, le compte épargne-temps universel. Les deux autres organisations patronales n'en veulent pas. Le président de l'UDP, Michel Picon, y voit lui un progrès social, mais surtout un outil d'attractivité pour les petites entreprises. Sur ce sujet, il avait déjà prévu de renégocier avec les syndicats, mais depuis, l'ordre du jour s'est étoffé. Il sera aussi question de reconversion professionnelle pour les seniors. Attitude déloyale, tacle de concert le MEDEF et la CPME qui sécheront la réunion aujourd'hui. Si l'on signe, ce sera surtout symbolique, soupire de son côté Cyril Chabanier de la CFTC, car en termes de représentativité, l'UDP ne pèse que 5% contre 69% pour le MEDEF. L'organisation peut donc bloquer un potentiel accord. L'objectif est surtout politique. Il s'agit de peser sur le gouvernement qui prépare un futur projet de loi travail.
Zoé Pallier, des syndicats et des actionnaires main dans la main chez Stellantis. Le salaire du directeur général Carlos Tavares, c'est une nouvelle fois source de critiques. On parle de 36,5 millions d'euros pour l'année 2023, dont 11 de bonus performance, ce qui constitue pour Carlos Tavares l'argument de défense principale, bien payé car les résultats sont là. Mais plusieurs agences de conseil aux actionnaires recommandent de voter contre lors de l'Assemblée Générale qui se tient à Amsterdam aujourd'hui. Un vote qui n'est pas contraignant. Charles Pinel, le directeur général de Proxinvest, est l'un des cabinets de conseil qui est contre.
La rémunération de Carlos Tavares est très élevée par rapport aux sociétés françaises du CAC 40. Elle est très élevée par rapport aux sociétés européennes du secteur automobile. Elle représente environ 3,5 fois les montants médians. Et à un tel niveau, on peut penser que le conseil d'administration de Stellantis met tout en œuvre pour conserver Carlos Tavares à tout prix. Et ça pourrait donner l'impression aux investisseurs qu'il pourrait y avoir un danger de se dire que le conseil donne peut-être trop d'influence à Carlos Tavares.
Charles Pinel, joint par Céline Cajoulis. L'actualité de l'automobile, c'est aussi cette annonce de Tesla, la suppression de 10% des effectifs. Ce sont 14 000 salariés. Au total, l'annonce a été faite en interne par le patron Elon Musk, qui voit sa croissance folle freinée par l'essor des concurrents. Eric Kioch.
Oui, la direction du groupe explique préparer sa prochaine phase de croissance, ce qui la pousse à réduire les coûts pour augmenter la productivité. Une méthode éprouvé chez Tesla, comme l'explique l'expert automobile Bertrand Racotto de chez Carlyle au micro Radio Classique de Céline Cajoulis.
C'est pas la première fois que Tesla en fait a recours à ce genre de méthode. Quand les chiffres vont mal, en général, on annonce des mesures assez dures pour dire, bon, on va réduire les dépenses, rétablir un peu les choses.
Il faut dire que Tesla a vu ses livraisons chuter de 8,5% dans le monde entre janvier et mars, moins 20% si on compare à décembre 2023. Une mauvaise passe qui s'explique par la bonne santé de ses concurrents directs.
Il y a une concurrence beaucoup plus intense pour Tesla, particulièrement par les constructeurs historiques européens ou nord-américains. Et ça arrive à un moment où le véhicule électrique atteint un plateau. Donc, pour Tesla, il y a une pression qui est de plus en plus importante pour pouvoir poursuivre la croissance.
Et ainsi, le groupe Volkswagen en particulier a conforté sa reprise avec une progression de 35% sur sa gamme électrique en 2023, alors que Latonie gagne les marchés européens et nord-américains. Et en Asie, Tesla doit composer avec une demande qui privilégie les constructeurs domestiques, en tête desquels le chinois BYD, qui a même dépassé Tesla au dernier trimestre en nombre de ventes mondiales.
Les explications d'Eric Kioch. Aux États-Unis, Samsung va obtenir une subvention jusqu'à 6,5 milliards de dollars pour produire au Texas des semi-conducteurs. En revanche, le Sud-Coréen veut investir plus de 40 milliards de dollars dans la région et créer plus de 20 000 emplois. Samsung, qui sur le marché du smartphone reprend la première place à Apple au premier trimestre 2024. On en vient désormais au marché financier qui reste calme en Europe malgré les tensions au Proche-Orient. Le CAC à Paris a pris 0,43%, Francfort 0,54% hier. En revanche, à New York, le Dow Jones s'est replié de 0,65%, le Nasdaq est d'1,79%. Ce matin en Asie, l'ouverture est difficile, moins 2% à Hong Kong, moins 1,4% à Shanghai. Mais la valeur qui est la plus observée, c'est celle du pétrole, sachant que la plupart des producteurs sont au Proche-Orient. Bonjour Olivier Gantois.
Bonjour.
Le président de l'UFIP, l'Union des industries pétrolières, dans le journal de l'économie. Alors, est-ce que l'attaque de l'Iran sur Israël ce week-end a eu un impact sur le prix du baril?
Eh bien, on constate que les attaques qui ont eu lieu le week-end dernier n'ont pas eu d'impact sur les marchés pétroliers. On est dans un contexte de prix pétrolier élevé. Ça veut dire que dans ce prix, il y a déjà, on va dire, un supplément de prix lié aux tensions géopolitiques au Proche-Orient et au Moyen-Orient. La deuxième explication, c'est que les observateurs des marchés pétroliers semblent ne pas croire qu'il y ait un risque d'embrasement du Moyen-Orient. Autrement dit, les observateurs pétroliers pensent certainement que ni l'Iran, ni l'Arabie Saoudite, ni les États-Unis ne souhaitent laisser se développer le conflit actuel du Proche-Orient sur le Moyen-Orient.
Olivier Gantois, le baril tourne autour des 90 dollars. Est-ce que les prix vont rester aussi hauts?
Ces prix sont depuis pratiquement un an et demi relativement stables, élevés parce que la demande pétrolière mondiale est élevée, parce qu'il y a des problèmes géopolitiques. On a mentionné le Proche-Orient, mais il y a également le troisième producteur pétrolier mondial, la Russie, qui est en guerre contre l'Ukraine. Donc, ces éléments font que les prix sont élevés depuis un an et demi. Et pour moi, mon analyse, c'est que les prix pourraient rester à ces niveaux-là tant que ces situations continuent, c'est-à-dire la demande mondiale qui continue à augmenter lentement mais sûrement. Deuxièmement, les producteurs de brut qui continuent à restreindre leur production pour éviter qu'il n'y ait des surplus sur le marché. Et troisièmement, le maintien de ces tensions géopolitiques en Russie et en Ukraine d'une part et au Proche-Orient d'autre part.
Olivier Gantois, le président de l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières, l'invité du journal de l'économie ce matin. Il est 6h56. Dans un instant, la météo et la suite de la matinale avec David Abiker.